Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on s'intéresse à une autre idole des jeunes, pas franco-belge comme Johnny Hallyday, mais britannique comme Harry Potter. Comment Harry Potter apprend à ses lecteurs à grandir? C'est la question posée ce matin à l'occasion du 20e anniversaire de la saga, imaginée par l'écossaise J.K. Rowling. Harry Potter, ce jeune sorcier accompagné de ses amis pour la vie, Hermione Granger, Ron Weasley, et protégé par des adultes bienveillants, Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, le fidèle géant Hagrid, sans oublier l'ombre menaçante de Voldemort. Comment expliquer qu'Harry Potter ait durablement enchanté ses lecteurs? Au-delà de la lutte du bien contre le mal, quels sont les thèmes marquants de cette saga qui continue à se vendre massivement et qui conquiert chaque année de nouveaux lecteurs? En quoi Harry Potter est-il un héros résilient comme Oliver Twist ou David Copperfield de Dickens? Au-delà du plaisir de lecture, comment Harry Potter vous a-t-il aidé à grandir, à affronter certaines peurs, à vous confronter à la question du mal, de la mort et du libre arbitre? 01 45 24 7000 sans oublier l'appli France Inter et notre page Facebook. Avec nous ce matin, le psychologue Bruno Humbeck, le professeur d'histoire François Combat et la journaliste Mathilde Cesbron. En fin d'émission, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse. Ali Rebi.
Bonjour à tous nos invités. Bonjour Martine Cesbron.
Bonjour.
Alors, vous avez coordonné hors série du Point Pop, mythe et origine d'un chef-d'œuvre. Comment présenteriez-vous simplement la saga Harry Potter à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler? Harry Potter, Poudlard, Gryffondor, Voldemort, ça ne parle pas par exemple à notre réalisateur Eric Lenné. Expliquez-lui Harry Potter.
Harry Potter, c'est l'histoire d'un orphelin qui apprend le jour de ses 11 ans qu'il est un sorcier, dont les parents ont été assassinés par un mage noir qui s'appelle Voldemort, et il reçoit une lettre d'admission à l'école de sorciers qui s'appelle Poudlard. Et donc ça suit, c'est cette année de scolarité à Poudlard où il va apprendre la magie mais aussi affronter beaucoup d'épreuves, notamment liées à Voldemort, l'assassin de ses parents. Et Harry Potter, c'est un roman fantastique, c'est un roman qui peut être à la fois effrayant, amusant, qui est pétri de références philosophiques, mythologiques, bibliques. En fait, c'est un chef-d'œuvre que tout le monde doit lire, peu importe son âge.
François Combat, vous êtes professeur d'histoire, vous avez dispensé à Sciences Po un cours intitulé « Harry Potter » de J.K. Rowling, approche littéraire, psychanalytique et politique. Certains considèrent qu'Harry Potter, c'est un chef-d'œuvre et même une œuvre classique, au même titre que le livre de la jungle de Kipling ou David Copperfield de Dickens. Pourquoi serait-ce le cas? Pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre, un classique?
Parce que cela s'insère justement dans la littérature et que dans ce roman, à la fois tout est neuf et tout est vieux. Tout est neuf, il y a la carte du maraudeur, le Soul Scogneur, toute une inventivité. Et en même temps, tout est vieux dans la mesure où, par exemple, pour prendre une direction, Harry se retrouve dans la même situation que Édipe. Il doit donner la réponse à l'énigme et la réponse est lui-même. Et donc on est, si vous voulez, dans une espèce d'éternel de la littérature, d'éternel de l'art. C'est la question de l'homme, quoi. C'est la quête de l'homme.
Bruno Humbeck, vous avez publié de Blanche-Neige à Harry Potter des histoires pour rebondir, c'est-à-dire?
Oui, c'est pour faire preuve de résilience, hein, c'est quand même plus, je vais dire, correct que rebondir, hein, qui donnerait l'idée justement magique. Harry Potter est probablement un sorcier qui se fait des illusions. Ça veut dire qu'effectivement, il rêve qu'il est sorcier et il va apprendre à des tas d'enfants à rêver avec lui.
Bonjour Joséphine Taipamar.
Bonjour.
Vous êtes une grande lectrice d'Harry Potter, oui. Vous avez grandi avec lui. Alors vous habitiez à Londres quand le phénomène Harry Potter a pris son essor à la fin des années 90. C'est une œuvre qui vous a tout de suite plu alors que vous n'étiez pas forcément adepte de ce genre qu'est la fantasy, un genre littéraire qui met en scène notamment le surnaturel et la magie.
Oui, en effet. Enfin, moi, j'étais une grande lectrice déjà petite. J'ai dû lire les trois premiers tomes d'un coup au début des années 2000, donc j'avais 7 ans à peine. Je suis pas fan de ce genre de genre littéraire. Pour moi, ça me pensait un peu à Narnia. Enfin, c'est un mélange. En fait, je pense que c'est le fait qu'il y ait que le monde normal, on va dire qu'on connaît, le monde réel et le monde magique soient réunis, qui permet à tant de gens de rentrer dedans et de s'y identifier. En fait, même mes grands-mères ont lu Harry Potter, ce qui est quand même assez étrange quand on y pense. Enfin, c'était pas attendu, quoi.
Et en quoi la lecture de la saga Harry Potter vous a-t-elle changé?
Sur le coup, je sais même pas pourquoi ça m'a parlé tant tout de suite. Je saurais pas vous dire, c'est venu au fur et à mesure. Enfin, même pas, mais j'étais trop petite pour, je pense, le rationaliser.
Avec le recul.
Mais avec le recul, Bah, moi, surtout, c'est le personnage d'Hermione qui m'a énormément marqué.
Hermione Granger, c'est l'une des amies fidèles d'Harry Potter.
Voilà, c'est une des meilleures amies d'Harry Potter avec Ron Weasley.
Beaucoup plus intelligente qu'eux.
Exact, comme c'est souvent le cas dans les amitiés filles-garçons. Oh, pardon pour ce sexisme facile. Mais oui, en fait, c'est le personnage d'Hermione qui est un personnage d'intello. Enfin, pas de personnage intelligent, génie, un peu fou, comme on peut trouver dans la littérature, mais vraiment d'intello. Parce que moi, j'étais un peu... pas mal, un peu je sais tout et tout ça, ça m'a avoir un personnage auquel je pouvais m'identifier et qui était en même temps sympathique, courageux et hyper badass.
Badass, ça veut dire quoi?
Bah, je sais, une femme forte, une jeune fille qui s'affirme, qui se défend, qui défend son droit à être intelligente et à être une intello aussi, quoi. Et ça m'a vraiment, moi, ça m'a beaucoup parlé, quoi.
Bruno Humbeck.
Oui, alors c'est vrai que c'est effectivement une forme de résilience qu'on va appeler cognitive. Hein. C'est pour ça que l'intellect, notamment de Hermione, aide aussi un certain nombre à utiliser l'intelligence pure, c'est-à-dire scolaire, on pourrait dire d'Hermione, et les intelligences plus créatrices d'Harry Potter. Donc c'est un panel d'intelligence mis à disposition de l'enfant ou de l'adolescent pour se développer de ce point-là.
Mathilde Cesbron.
Oui, puis ce qui touche aussi dans l'œuvre, c'est que c'est un parcours initiatique, une quête de l'identité à laquelle tout le monde peut s'identifier, qu'on soit enfant ou adulte.
François Combat, vous, qu'est-ce qui vous a touché dans Harry Potter, vous qui avez enseigné Harry Potter à Sciences Po?
J'étais un peu âgé pour grandir avec Harry Potter, un peu jeune pour vieillir avec Dumbledore. et du coup, si vous voulez, moi, ce qui m'a étonné, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que j'avais dans les mains une œuvre qui était clairement pour moi une œuvre d'art, et en même temps, la critique ne s'en était pas encore emparée, en sorte que, si vous voulez, j'allais pouvoir jouer à Robinson Crusoe, j'allais pouvoir être à peu près le premier à explorer le texte, surtout que il y a eu d'autres critiques qui en ont parlé très vite, mais qui se
Isabelle Smadja, par exemple, oui, qui a écrit Harry Potter, les raisons d'un succès.
Voilà, qui se sont laissés fasciner par les chiffres de vente, en sorte qu'ils ont commenté les chiffres de vente.
Non,
plus
c'est pas
que
vrai pour Isabelle Smadja, c'est pas vrai.
Oui, parce qu'elle est intelligente, mais sa piste de départ était mauvaise. Et elle a réussi, parce qu'elle est effectivement intelligente et vigilante, elle a réussi à faire un bon livre, mais avec une mauvaise problématique.
C'était quoi
parce
cette
que la
problématique
question de savoir si ça se vend ou pas, on s'en fiche. Enfin, est-ce qu'on parle des chiffres de vente de Shakespeare? Pas d'importance.
Alors, notre camarade Laurence Garcia, France Inter, me disait que son fils Nicolas aimait Harry Potter car il avait grandi avec les personnages, notamment dans l'adaptation au cinéma. Il y a un fort effet d'identification pour vous, Joséphine?
Ah oui, complètement. Complètement, parce que c'est vrai que petite, j'étais beaucoup plus jeune qu'eux, alors que quand le premier film est sorti en 2001, il me semble, bon, j'avais 8-9 ans, donc j'étais un peu plus jeune, mais pas tant que ça, et au fur et à mesure, j'avais les mêmes âges qu'eux, en fait, quasiment, et c'est vraiment, c'est super de pouvoir se projeter comme ça dans ce monde, alors que nous on va à l'école normale et que bon, c'est pas tous les jours très rigolo. Et de voir ce monde magique et ces trucs qui font hyper peur, qu'on n'aurait jamais le courage d'affronter, et on se dit, ah, eux, ils y arrivent. Et ce qu'on disait sur les intelligences, moi, ça m'a fait penser qu'en fait, tous les trois ensemble, ils y arrivent et qu'un seul pourrait pas y arriver. Il y a beaucoup de critiques du personnage d'Harry Potter, qui disent que le personnage en lui-même est pas excessivement intéressant, pas excessivement intelligent, et que les trois ensemble, c'est ce qui fait que ça marche.
Bruno Humbeck. Ce qui vient d'être dit est intéressant parce qu'on parle d'une école idéale, hein, et effectivement, Poudlard est l'école idéale, et c'est une pédagogie ultra traditionnelle. Seulement, ça rassemble des enseignants hyper compétents, est très concerné par ce qu'ils font. Donc ce sont les vraies exigences d'un enfant pour être accompagné. Et c'est de l'accompagnement, en fait. Hein. C'est pour ça que ça fait grandir Harry Potter.
Vous êtes d'accord avec ça, François Combat?
Oui, non, en fait, pas vraiment. Parce que, oui, effectivement, la conception de l'école est traditionnelle, mais il manque à ces enseignements, par exemple, des enseignements de littérature. Il leur manque, en fait, tous les enseignements moldus.
Classique,
or, ces enseignements-là, ils sont réellement formateurs de la personnalité. On se rend compte que une des supériorités de Dumbledore... Le directeur de l'école de Poudlard se devine à ce qu'il a une culture moldue, par exemple, la musique de chambre. Et c'est un peu ce qui manque à la formation de ces jeunes gens.
Un moldu, c'est quoi? Parce que tout le monde n'est pas...
C'est une personne sans pouvoir magique et il y en a beaucoup.
Noémie nous dit, Harry Potter a sûrement contribué à être l'adulte que je suis devenu. Enfant dyslexique, il était très difficile pour moi de lire toute seule. J'avais du mal à lire jusqu'à l'âge de 13 ans. Puis j'ai rencontré Harry Potter. Le premier livre que j'ai lu toute seule, Harry Potter m'a appris que la magie existait et qu'elle était dans les livres. Bruno Humbeck.
Alors c'est vrai, et elle est placée d'une manière tout à fait spécifique. Le grand génie de Rowling, c'est d'avoir... inverser les codes, le monde rêvé d'Harry Potter est décrit de manière très réaliste et probable que Poudlard est le monde rêvé, mais tout le monde y croit. Par contre, le monde réel d'Harry Potter, les Dursley, celui-là est décrit de manière très onirique. Donc on a un transfert de codes qui donne vraiment cette impression de magie dans lequel tous les adolescents et les adolescents même, parce qu'on est rentré très tôt, ce qui était une vraie surprise pour ceux qui analysaient la littérature enfantine. On pensait qu'il fallait faire des livres très courts avec des grandes lettres, et on s'est retrouvé avec un livre très très long avec des petites lettres, sans images quasiment, avec effectivement une fascination.
François Combat, Antoine, par mail, me demande si J.K. Rowling a créé un genre nouveau.
Non, je crois qu'elle a eu la très bonne idée de se débarrasser d'un genre. C'est-à-dire qu'un livre n'atteint une vraie stature qu'au fond quand il échappe aux catégories. Donc de la même manière que d'un certain point de vue, Don Quichotte a tout l'air d'être un roman de chevalerie et c'est tout autre chose. Je crois que là, on a un roman qui a l'air d'être de la fantasy, puis le roman d'apprentissage est bien plus important.
Mathilde Cesbron.
Ouais, elle a quand même inventé quelque chose. C'est un héros.
J.K. Rowling.
J.K. Rowling a quand même inventé quelque chose. C'est un héros qui grandit. Et ça, on n'avait pas avant, on est quand même passé du Club des Cinq à Harry Potter.
Vous êtes d'accord avec ça, Bruno Beck ?
Qui fait grandir, parce que ce n'est pas l'invention du héros qui grandit, mais ça existait déjà, hein, même dans la bande dessinée pour adultes, on a Blueberry par exemple, le grand vieillissait, lui, c'est pire que grandir sans doute, mais donc cette idée-là n'est pas tout à fait neuve. Ce qui est très neuf, c'est que ça fait grandir, ça accompagne, hein, dans le témoignage que vous donnez tout à l'heure, c'était réellement ça, on est accompagné parce qu'on se sent des points communs, si pas avec Harry Potter, au moins avec quelqu'un qui l'entoure.
Allez, dites-nous pourquoi Harry Potter vous a appris à grandir, qu'il s'agisse des romans ou des films, 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur notre page Facebook, Alexia Rivière, Claire Destacan, Antoine Vandeville et notre journaliste maison Théo Delmat m'ont aidé à préparer cette émission et c'est réalisé par Eric Lenné.
J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Une autre route, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve là. Ouh, soudainement je suis tombé, ouh, et comme ça je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Pars pas, tu restes ici, je veux seulement t'aimer très fort. Ouh, tu es né pour être à moi. Ouh, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je veux te graver dans ma vie. J'aimais partir, j'aimais courir, mais quand tu viens, je veux rester là. Je suis sincère, je veux mourir, si tu ne veux pas croire à tout ça.
Johnny Hallyday, je veux te graver dans ma vie.
Tu sais ce que c'est quelqu'un de rock ?
Oh, l'expression de vieux con.
Grand bien vous fasse.
Tu crois rock ?
Qu'est-ce que t'es chiant,
toi ? N'importe quoi, quoi.
Rock'n'roll !
Sur France Inter.
Bruno Humbeck, je rappelle que vous êtes psychologue et chercheur à l'université de Mons en Belgique. Votre regard sur le héros national qu'est Johnny Hallyday, décédé cette nuit à l'âge de 74 ans d'un cancer du poumon. Johnny Hallyday qui aurait pu figurer dans les mythologies de Roland Barthes.
Oui, c'est vraiment un phénomène, parce que c'est très très rare que quelqu'un soit connu aussi fort sur un espace local déterminé et finalement relativement méconnu. Hein. Il est connu, mais n'a pas cette espèce d'aura à l'extérieur. L'équivalent, c'est Astérix. Hein. Il y a quelque chose, c'est pour ça que sa mort est aussi mal vécu, je vais dire, par la France, parce qu'on a l'impression que c'était quelqu'un d'invincible, qui représentait la résistance nationale face à l'envahissement, tout en récupérant, hein, on vient de l'entendre, une chanson effectivement des Beatles, récupérée par lui, mise à la sauce française, je vais presque dire franchouillarde, hein, c'est-à-dire qu'on utilise le français avec une traduction très très approximative, mais qui montre très clairement qu'on est en France.
Allez, on s'intéresse ce matin à une autre idole des jeunes, Harry Potter. Comment Harry Potter nous apprend à grandir, c'est notre question ce matin.
Tu es un sorcier, Harry.
Je suis un quoi ?
Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné.
Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie.
Il n'est pas question qu'il s'en aille, vous entendez ? Quand nous l'avons recueilli, nous nous sommes jurés d'en finir avec ses sornettes.
Vous le saviez ? Vous l'avez toujours su et vous ne m'avez rien dit !
Oui, nous le savions. Tu ne pouvais être qu'un sorcier.
Un scandale ! Il n'ira pas là-bas. Ce garçon est inscrit à Poudlard depuis sa naissance. Il va faire ses études dans la meilleure école de sorcellerie du monde et il va avoir le plus grand directeur qu'on ait vu à Poudlard. Albus Dumbledore.
Je refuse de payer pour qu'un vieux timbré lui apprenne des tours de magie.
Extrait d'Harry Potter à l'école des sorciers. Alors Harry Potter, c'est 7 romans parus entre 1997 et 2007. Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et l'ordre du phénix, Harry Potter et le prince de sang-mêlé, Harry Potter et les reliques de la mort. Tous ces ouvrages se vendent encore très bien. Selon l'institut de référence GFK, depuis le début de l'année 2017, 5 titres d'Harry Potter figurent dans les 10 meilleures ventes de littérature de jeunesse. Même s'il ne faut pas réduire Harry Potter à la littérature de jeunesse, François Combat, pour vous, c'est une erreur fondamentale.
Oui, bah les adultes se sont appropriés le texte, hein, en grande partie, et le texte, de toute façon, quitte un peu les enfants, hein, c'est-à-dire que les premiers volumes, les premiers tomes sont écrits dans une langue assez accessible. Quand on arrive à partir du cinquième, qui comporte quand même des aspects un peu de tunnel, hein, l'administration, c'est assez poisseux. Là, il faut quand même que le lecteur fasse preuve d'un certain courage. Il ne s'amuse plus autant à toutes les pages. Et puis, on a un très haut degré d'élaboration dans le tome 6 et dans le tome 7. Dans le tome 6, où J.K. Rowling puise dans la psychanalyse, et apparemment, elle connaît fort bien non seulement Mélanie Klein et Winnicott, mais également Lacan, semble-t-il. Et puis, dans le tome 7, il y a également un vrai degré d'élaboration d'intellectualité.
Alors, Harry Potter ne concerne pas que les enfants. Sylvie nous dit « J'ai lu Harry Potter pour me rapprocher de l'une de mes filles. J'ai lu tous les tomes en pleurant ou en éclatant de rire parfois. Cela évoque très justement mes années de pensionnat. » Les miennes étaient tout de même moins magiques, malheureusement, Bruno Beck.
Alors, c'est en fait ce que produit Harry Potter, on le voyait pendant qu'on écoutait les interviews, où notre fan d'Harry Potter reprenait le dialogue intégralement. C'est le mécanisme qu'on a à la fois dans la littérature et dans le cinéma, c'est une immersion complète dans l'univers. C'est ce que produit Harry Potter, que produisent de rares romans et de rares films. C'est pour ça qu'on le voit mal à la télé d'ailleurs, on le voit plus au cinéma, parce qu'on doit être immergé dans l'image.
Alors, dès son origine, la littérature de jeunesse a notamment pour ambition de former la personnalité du lecteur. C'est un peu le cas avec Harry Potter ou pas, Bruno Humbeck ?
Oui, très clairement. Hein. C'est-à-dire une personnalité qui, justement, va toujours garder le choix. Le principe d'Harry Potter, c'est d'avoir le choix. C'est de ne pas subir son destin de manière trop complète. C'est ça le principe, d'ailleurs, de la résilience. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'on a fait de moi, hein, comme le soulignait Sartre. Et il va toujours pouvoir faire des choix, alors que tout le détermine vers l'effondrement. Il est capable, lui, de choisir une autre voie qui va lui permettre de se développer, de s'épanouir.
Mathilde Cesbron, journaliste au Point Pop.
Oui, c'est exactement ça. C'est nos choix déterminent qui nous sommes. Et ça apprend aussi, une des grandes leçons, c'est d'accepter la mort d'accepter la souffrance, donc la résilience.
On va revenir tout à l'heure à la question de la mort, mais François Combat, ce qui plaît sans doute dans Harry Potter, c'est qu'il s'agit d'un roman d'apprentissage. Harry Potter invite le lecteur à quitter l'enfance pour aller vers l'âge adulte.
Oui, c'est une éducation, et pour le dire en trois mots, je dirais que c'est une éducation à l'honnêteté, une éducation au courage et une éducation à la solitude. C'est-à-dire que vraiment, ce qui fait la dignité de Harry, de Hermione, ils ont des qualités, avec Ron il y a des défauts, au fond peu importe, ils sont honnêtes et ça finit par tout transfigurer. Et ils tiennent la solitude, même s'ils sont amis, on sent bien, notamment dans le tome 7, qu'il y a une vie intérieure qui se développe en eux et qu'ils ne se disent vraiment plus tout. Ils continuent de travailler ensemble parce que c'est de l'amitié qui travaille. Ils travaillent à détruire Voldemort. Et donc il y a cette éducation à la solitude. Et puis alors ils sont d'un courage qui n'ignore pas la peur, hein, qui n'est pas un courage de l'inconscience. C'est pas du tout le courage de la folie, de celui qui se rend absolument pas compte de ce qu'il est en train de faire. Non, non, c'est un courage réfléchi. Et on trouve l'équivalent de ce courage même sous une forme alors assez effarante avec le personnage de Rogue.
Rogue,
c'est apparemment un méchant, mais en réalité, il est au service de Harry. Et là, c'est un espion, en fait, au service de Dumbledore, mais qui ne lâche pas Voldemort, qui colle à Voldemort, tout en enseignant les potions à Poudlard. Et ce qui est très frappant, c'est que, alors lui, vraiment, il est sacrificiel. C'est-à-dire qu'il est universellement haï de tous les camps, c'est l'homme impénétrable. Il est là pour faire un boulot, en gros, aider à la destruction de celui qui a tué la femme qu'il aimait.
Joséphine Taille-Pamar, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord. Dans l'idée, c'est juste il y a toujours un débat autour du personnage de Rogue, de qui trouve qu'il est vraiment gentil ou vraiment méchant, parce qu'au fond, il sert que Dumbledore, mais il reste très mauvais avec Harry, mais avec un enfant très petit. Hein, quand il a 11 ans, il le harcèle. Voilà, il le harcèle, il est vraiment très injuste avec lui et très même méchant, alors que c'est un enfant petit qui n'y peut rien et qui n'y peut rien au fait que le pauvre est amoureux de sa mère et que sa mère l'aimait pas. Enfin, il y a un moment où c'est un petit peu c'est un peu léger pour justifier les actions de quelqu'un, je trouve.
Mais... Le bullying, c'est le terme anglo-saxon pour dire harcèlement. Bonjour Léa.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous avez 24 ans et vous avez grandi avec Harry Potter.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai découvert Harry Potter quand j'avais 8 ans à peu près à l'école primaire. C'est une amie qui m'en a parlé. Et tout de suite, je suis tombée complètement sous le charme. Et du coup, tous les tomes m'ont accompagnée pendant mon adolescence.
Pourquoi est-ce que vous vous êtes identifiée à ce point à Harry Potter? Et pourquoi lire Harry Potter vous a peut-être aidé à grandir, à contribuer à votre construction identitaire?
Disons que j'ai réussi en fait à m'identifier aux personnages parce qu'ils ont chacun des valeurs qui me tenaient à cœur. Et, par exemple, avec le courage, le fait de pouvoir aider ses amis, etc. En fait, en pouvant m'identifier à ces personnages, ils m'ont un petit peu aidé à affronter certaines épreuves de la vie, si on peut dire, comme les déceptions amoureuses, qu'est-ce qui se passe avec les amis, mais aussi à comprendre des sujets par rapport à la mort, par rapport à la vie, ou les liens familiaux, par exemple.
Anya nous dit sur notre page Facebook que c'est une série de livres pleine d'amour qui donne chaud au cœur à la fin de chaque lecture, qui donne envie d'être bon, d'aimer et de donner tout ce qu'on a aux personnes qu'on aime. Vous êtes d'accord avec ça, Léa?
Globalement, moi, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que je pense qu'Harry Potter transmet des belles valeurs quand même. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu une lecture doudou que j'aime relire en plus de temps en temps.
Joséphine Taille-Pamar, je rappelle que vous êtes une fan d'Harry Potter.
Oui.
Ça vous parle ce que vient de dire Léa?
Le livre doudou complètement. Et c'est moi, je sais que quand je les relis, ou du coup je passe parfois par les films parce que ça va plus vite et que c'est plus pratique, c'est complètement régressif. Et en même temps, je découvre quand je lis les livres, je les ai relus cet été, je découvre à chaque fois des choses nouvelles.
Par exemple,
cet été, en relisant, j'ai relu le 6 et le 7 cet été, 5, 6, 7, et je me suis rendu compte que la façon dont J.K. Rowling décrit les méthodes de Voldemort, c'est complètement des méthodes terroristes. Ce que j'avais pas vraiment assimilé avant d'y être moi-même, du coup, malheureusement, confronté comme on l'a tous été en France, directement.
Bruno Humbeck.
Alors justement, c'est étonnant qu'on parle de livre doudou alors que c'est plutôt un livre du dur.
Au sens
plein du terme. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on voit dans nos mondes sociaux actuellement, on pouvait le préfigurer. Avec, par exemple, les gestes ou l'épopée, ce qui permet de sortir d'une identité sacrifiée, une identité négative, de devenir un héros de manière fulgurante, c'est soit le geste, y compris le mauvais geste, hein, parce qu'il y a des mauvais gestes aussi dans Harry Potter, ou l'épopée. Et c'est ce qu'on voit apparaître chez les adolescents actuels. Harry Potter a eu vraiment une fonction salutaire de permettre de canaliser ce désir de devenir quelqu'un, je vais dire, de signifiant, et d'existant aux yeux des autres, et de sortir de l'insignifiance. A priori, il est insignifiant. C'est quelqu'un que tout le monde oublie, qui est dans un placard et qui va devenir signifiant et existant.
Harry Potter, c'est un personnage qui permet de mieux comprendre, quand on le lit, quand on est à la fin de l'enfance et au début de l'adolescence, des pulsions nouvelles. François Combat, Si on a une lecture psychanalytique.
Oui, parce que la magie peut donner l'illusion de la toute-puissance. Et assez rapidement, Dumbledore rappelle que, bon, au fond, non, la magie, c'est bien pratique, mais que l'essentiel se joue ailleurs. Et alors, c'est un aspect amusant. Hein. C'est sûr que lorsque Harry est un peu paumé, il appelle Hermione au secours, qui arrive et qui lui dit « T'inquiète, j'ai le sortilège » et qui résout le problème. Mais bon, en fait, il y a d'ailleurs des sortilèges dont on se devine qu'elle les a inventés, l'auteur, en cherchant ses clés dans son sac. Hein, le sortilège Axio, bon, j'en ai assez de chercher mes clés, où sont-elles ? On devine, donc voilà que il y a un petit côté, je résous les problèmes du quotidien.
Bruno Mbeck sur ses pulsions.
Alors oui, c'est vrai que effectivement, mais ça, comme ça vient d'être dit, ça semble donner l'impression que ça peut être résolu de manière magique. Mais il y a des garde-fous quand Dumbledore dit tu dois vivre ta vie, pas te contenter de la rêver. C'est la phrase clé. Ça veut dire qu'effectivement, on peut partir dans l'imaginaire, mais on doit garantir à celui qui part dans l'imaginaire un retour sans encombre à la réalité. Harry Potter est un sorcier, mais qui est incapable de changer quoi que ce soit à sa propre réalité. C'est ce qu'on fait tous quand on rit, quand on utilise l'humour, la créativité, l'imaginaire ou le jeu pour faire face, par exemple, comme le disait une auditrice, à un chagrin d'amour.
Merci beaucoup, hein, Léa, d'avoir témoigné.
Je dois faire signer ce formulaire.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est rien. C'est pour l'école.
Plus tard, peut-être, si tu te conduis bien.
Oui, si elle en fait autant.
Tu es toujours là, toi ?
Oui.
Ne me réponds pas oui avec une telle ingratitude. Dans quel collège l'as-tu envoyé ?
Saint-Brutus. Un excellent établissement pour les cas désespérés.
Il donne des coups de canne à Saint-Brutus ?
Oui. Oui, et moi je reçois très souvent.
Très bien. J'en ai assez des préchis-préchagnons des chiffres qui ne veulent pas qu'on corrige ce qu'ils méritent. Mais ne te sens pas responsable de ce que ce garçon est devenu, Vernon. Ça vient uniquement du sang. Quand le sang est mauvais, ça ressort toujours. Que faisait le père de ce garçon, Pétunia ?
Rien, il ne travaillait pas. Il était chômeur.
Ivrogne aussi, sans doute.
Ce n'est pas vrai.
En fait, ça n'a rien à voir avec le père. Ça vient avant tout de la mère. On voit ça couramment chez les chiens.
La ferme !
Comment ? Écoute-moi bien, toi. Tu...
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors les Dursley, l'oncle et la tante d'Harry Potter qui font penser aux Thénardier dans Les Misérables. Bruno Mbeck, comme Oliver Twist ou David Copperfield, Harry Potter est un orphelin maltraité qui affronte des épreuves. On peut considérer qu'Harry Potter est un héros résilient. Alors, expliquez-nous peut-être ce qu'est la résilience.
Alors, au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il a un traumatisme, donc un choc. Il en prend conscience, hein, qu'il est un enfant mis dans des conditions difficiles. Et le traumatisme, c'est la prise de conscience du choc. Il prend conscience de ce choc et puis il va développer un ensemble de ressources pour produire ce qu'on appelle un néo-développement. C'est-à-dire qu'il va devenir quelqu'un d'autre que ce qu'il aurait été s'il n'avait pas reçu ce choc. Et il va devenir ce sorcier incomparable, hein, soit de manière imaginaire, hein, et je sais que les fans d'Harry Potter détestent quand je dis ça, que c'est un sorcier qui se fait des illusions, et J.K. Rowling elle-même croyait en Harry Potter, hein, lorsqu'on lui disait « mais ce personnage n'existe pas », elle était scandalisée, elle avait le sentiment qu'il existait, et la plupart des fans d'Harry Potter ont ce même sentiment d'existence de la personne.
Qui est séduit autour de la table avec l'idée que Harry Potter est un héros résilient, François Combat ?
Oh bah oui, je pense que l'idée est juste. L'idée, si vous voulez, c'est que la vie n'est pas terminée après ce qui vient de nous tomber dessus, sauf si on est mort. Mais tant qu'il reste de la vie, justement, il reste de l'espoir, il reste de la ressource, parce que l'être humain est créatif. Voilà. Et arrive à chercher des solutions. Mais alors bon, il faut les élaborer, c'est compliqué, il y a beaucoup de parts d'analyse à faire. C'est une opération intellectuelle. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est que les personnages les plus dangereux et éventuellement les plus secourables sont de très grands savants. Dumbledore, Voldemort, Rogue, c'est vraiment nous envoie le message plus que l'argent des Malfoy, soyez des scribes, soyez des savants, c'est ça qui vous donnera une vraie dimension.
Quel est le rôle de l'amitié dans le processus de résilience de Harry Potter?
Oui, c'est exactement ce à quoi j'allais venir. C'est qu'en effet, Harry Potter est un héros très résilient. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'il n'est pas résilient en lui-même. Il n'est pas résilient en soi. C'est pas lui qui... Il ne puise pas juste dans ses propres ressources pour pouvoir y arriver tout seul parce qu'il est trop fort. C'est grâce aux gens dont il est entouré et chez qui il va chercher, même de Dobby, l'elfe de maison, qui l'aide beaucoup à beaucoup de moments. Ce qui n'est pas représenté assez dans les films, d'ailleurs. et qui est pourtant une créature magique qui est considérée comme inférieure dans la hiérarchie du monde des sorciers.
Mathilde de Frances Bron.
Oui, l'amitié, c'est crucial dans Harry Potter. Et l'amour, surtout, il faut être entouré pour surmonter les épreuves.
Et quel est le rôle des adultes bienveillants dans ce processus de résilience, Bruno Humbeck ?
Alors, très clairement, tutoriser la résilience, mais ce qui a effectivement, et ce qui vient d'être dit par rapport à l'amitié, par rapport à l'idée d'avoir des mentors autour de soi, chez Harry Potter, il ne s'impose pas dans sa vie réelle. Il les a pas. Blanche-Neige, par exemple, les a dans sa vie réelle. Les nains sont là et sont à sa disposition. Par contre, Harry Potter va devoir se les créer lui-même. Et c'est vrai qu'on n'est jamais résilient tout seul. Ça, c'est
et les adultes bienveillants, justement.
Alors, les adultes bienveillants, il faut les repérer aussi, parce qu'ils sont ambigus. Un personnage comme Rogue, par exemple, va montrer toute l'ambiguïté.
Et Hagrid, je crois que c'est l'un des personnages préférés de J.K. Rowling, le géant de 3,50 m, qui est d'une bienveillance absolue et qui est peut-être aussi mon personnage préféré.
Et qui n'est pas un géant pour rien. C'est un géant pour aider à grandir et pour donner l'impression, effectivement, qu'on a affaire à quelqu'un de solide, qui va tutoriser, effectivement, cette résilience. Mais avec toujours une définition de l'autonomie, c'est la capacité de faire appel aux autres quand c'est nécessaire et de choisir les personnes à qui on peut faire appel. C'est pas faire appel de manière indifférenciée à n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance.
Bonjour Lisette, bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour.
Alors, que vous inspire notre sujet du jour consacré à Harry Potter ? Est-ce qu'il vous a aidé à grandir ou est-ce qu'il a aidé à grandir vos enfants ?
Donc, il s'agit de mes enfants, deux enfants qui à l'époque avaient 9 et 11 ans. Et ma fille a grandi avec Harry Potter comme mon fils avec Tolkien. Et moi, je n'ai jamais mis le nez ni dans l'un ni dans l'autre, malgré leur insistance. Mon fils, surtout, voulait que je lise Tolkien. Et je me suis aperçue avec le temps qu'ils ont été l'un comme l'autre le père qui leur a manqué. Et ils étaient comme sous hypnose. Ça a été une thérapie qui m'a complètement échappée et qui leur a permis l'un comme l'autre de grandir. Et c'est quelque chose qu'ils ont totalement choisi. Je n'y suis strictement pour rien.
Bruno Humbeck.
C'est pas du tout un hasard qu'on parle de Tolkien en même temps. C'est le même mécanisme du mélange d'un
Tolkien, il faut le rappeler, c'est l'auteur du Seigneur des Anneaux.
C'est-à-dire qu'il est à la fois un conte pour enfants condensé avec une histoire pour adultes et qui présente, comme Harry Potter, un univers cohérent. Le besoin, c'est pas seulement la quête de lien, c'est aussi la quête de sens. Harry Potter présente un univers cohérent, compréhensible, comme le Seigneur des Anneaux présentait ce même univers cohérent.
François Combat, sur le témoignage de Lisette.
Oui, c'est intéressant. Enfin, elle est presque brave d'une certaine manière à avoir réussi à ne pas ouvrir, mais j'imagine qu'elle a un peu exagéré les livres qui se lisaient autour d'elle. En revanche, elle a une attitude très très positive, c'est-à-dire qu'elle a laissé ses enfants se débrouiller tout seuls, quoi, aller jouer tout seul dans la pièce à côté. À un moment donné, il a été question du livre doudou. Il y a une dimension d'objet transitionnel dans le livre. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que cet objet sera difficile à remplacer, c'est que sa position dans nos mains par rapport à notre corps, déjà ouvrir un livre, c'est on est toujours un peu autour et au-dessus, il y a une relation intime corporelle au livre qu'on oublie et qui fait que oui, un livre pour un enfant, c'est un objet qui déjà l'aide à grandir, enfin c'est la dimension humaine quoi.
Merci beaucoup Lisette d'avoir témoigné ce matin. Vous pouvez également nous dire pourquoi Harry Potter vous a aidé à grandir, qu'il s'agisse des romans ou des films. 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et bien sûr sur notre page Facebook. Calypso Valois apprivoisé.
Tu verras la grêle brûler sur le sol comme du feu.
Grand bien vous fasse.
Qui c'est ce type ? Un gars avec une barbe et un bâton, je suis sûr que c'est un enchanteur.
Eh ben c'est pas gagné.
Sur France Inter.
10h41, comment Harry Potter nous aide à grandir, que l'on soit enfant, adolescent ou adulte, c'est notre question ce matin. Alors, l'une des grandes vertus d'Harry Potter, c'est de nous confronter à nos plus grandes peurs. J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, croit par exemple aux vertus pédagogiques des récits terrifiants. Bruno Humbeck, je rappelle que vous avez publié de Blanche-Neige à Harry Potter, des histoires pour rebondir.
Alors, le gros atout de ce type d'œuvre, c'est que ça permet de passer de l'émotion à l'angoisse, en passant par l'état d'âme. C'est-à-dire que vous avez les peurs. Et une peur, ça se vit, ça se contredit pas. Il faut éviter que ça devienne une forme d'état d'âme permanent, l'inquiétude, et que ça se transforme en angoisse. Par exemple, la terreur. Et donc, on ne regarde pas Harry Potter en étant sous terreur. On a juste des peurs. Parce que, par exemple, on a nommé la mort. Ce qui nous angoisse, c'est la mort. Elle a été nommée, donc elle est maîtrisée. Et donc, on en a peur. Et les enfants, les adolescents diront, bah oui, j'ai peur en regardant Harry Potter, mais ça ne nettoie l'angoisse parce que simplement on nomme les choses, parce qu'on est dans le même pas peur, mais même pas terrorisé, et surtout pas terrorisé, ce qui est le message qu'on doit faire passer d'ailleurs aux générations actuelles.
Vous êtes fan d'Harry Potter, ça vous parle ce que vient d'être dit ?
Oui, complètement. En effet, c'est vrai que c'est exactement ça, c'est qu'il y a jamais, la peur prend jamais le pas en fait dans Harry Potter sur la vie, enfin sur la résilience dont on parlait tout à l'heure. C'est toujours un levier pour aller plus loin et pour continuer à se battre, et pas quelque chose pas un obstacle, pas quelque chose qui nous arrête, mais quelque chose qui nous porte plutôt.
Bonjour Marianne Chaillant.
Bonjour.
Vous avez publié Harry Potter à l'école de la philosophie, vous êtes professeur de philosophie. La mort, le deuil sont évidemment omniprésents dans Harry Potter. On peut dire que c'est la question de la mort qui anime le chef-d'œuvre de J.K. Rowling.
Oui, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé à moi. Dans le livre que j'ai consacré à l'œuvre de J.K. Rowling, j'ai d'abord tenté de montrer toute la philosophie qui était présente dans l'œuvre de J.K. Rowling, des échos à la philosophie classique, stoïcienne, platonicienne, par exemple. Et puis ensuite, je me suis demandé s'il n'y avait pas même une question philosophique centrale propre à la saga elle-même. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la question de la finitude, la question de savoir comment se positionner face à la question de la mort était le fil rouge de toute la saga.
Alors, philosopher, c'est apprendre à mourir, hein, nous disait Montaigne. N'oublions pas que le titre original du premier tome, c'est Harry Potter et la pierre philosophale.
Et tout à fait. Donc, et cette pierre philosophale, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet de conjurer la mort. C'est Nicolas Flamel qui l'a inventée pour ne pas mourir. Le titre du dernier opus, cette fois, c'est Harry Potter et les reliques de la mort. Et ces reliques, qu'est-ce qu'elles permettent ? Encore une fois, de conjurer la mort. On voit que la saga s'ouvre et se termine sur deux objets qui permettent de conjurer la mort.
Alors, Harry Potter nous montre d'abord le refus de la mort, le refus de la finitude, et puis ensuite son acceptation. L'acceptation de la finitude comme condition essentielle de la vie.
En fait, on a deux figures qui s'opposent essentiellement. Voldemort, qui est l'homme qui dit non à la finitude, qui tâche par tous les moyens possibles de résister à la mort. Et de l'autre côté, on a le héros, Harry, dont la tâche consiste, Dumbledore le dit, hein, sa tâche consiste à marcher calmement vers les bras accueillants de la mort. Deux héros, l'un refuse et va sombrer dans le mal que l'on connaît parce que précisément il refuse de considérer que la mort fait partie de la vie. Et de l'autre côté, on a Harry qui chemine. Cette acceptation n'est pas évidente, elle n'est pas donnée d'emblée pour Harry, il va devoir subir un certain nombre de drames, de deuils, dans lesquels il va refuser lui aussi la finitude, la perte de Dumbledore, par exemple, de Sirius, de Cédric, de ses parents, pour finir par comprendre qu'avoir mal, c'est comme respirer pour un humain.
Marianne Chaillard, vous écrivez très joliment que Harry Potter nous apprend ainsi que ses souffrances et ses pertes ne sont jamais que le dessin en creux des joies et des rencontres heureuses, que la vie est une étoffe tissée de ces deux fils et que toute tentation de renoncer à l'un nous priverait de l'autre.
C'est exactement ce que fait Voldemort. Voulant renoncer à la souffrance, en fait, il se prive de connaître toutes les joies qui, en creux, nous font souffrir plus tard. Il ne connaît pas l'amitié, il ne connaît pas l'amour. Harry, lui, accepte cette ambivalence de la vie, la joie, l'amour qui, peut-être plus tard, nous feront souffrir. Il y a un très beau conte de J.K. Rowling, les contes de Beedle le Barde, où est concentrée vraiment la philosophie de la saga. C'est un conte qui s'appelle Le sorcier au cœur velu. Je ne sais pas si vos auditeurs l'ont lu. Le sorcier au cœur velu ne veut pas souffrir et du coup, il s'arrache lui-même le cœur qu'il place sous verre. Mais du coup, il se condamne à une vie parfaitement inhumaine. Il ne souffre pas, certes, mais il ne vit pas non plus.
Merci beaucoup, Marianne Chaillant. Je vous laisse retourner en cours. Harry Potter à l'école de la philosophie, c'est publié chez Ellipse. Qui veut réagir au propos de Marianne Chaillant, Bruno Humbeck?
Je crois que c'est pas seulement la finitude, c'est aussi l'incertitude et la solitude. C'est les trois sources d'angoisse de tout être humain. C'est pour ça que c'est une œuvre vraiment colossale.
Mathilde Cesbron du Point Pop.
Oui, et puis Voldemort, c'est vraiment le mal incarné et elle le montre vraiment dans toute sa splendeur, je dirais. Et le moment culminant, je dirais que c'est la mort de Cédric Diggory qui est très froide. Et donc, elle veut voilà, montrer le mal absolu.
François Combat.
Oui, enfin, Marianne Chaillant a dit des choses intéressantes, mais je crois que c'est un livre sur la liberté, je crois que c'est pas un livre sur la mort. Si c'était un livre sur la mort, je ne pense pas qu'on accepterait, voyez, d'y consacrer autant de temps, de rêver dedans. Non, c'est un livre qui nous fait prendre conscience que bon, ben voilà, la partie n'est pas perdue, mais la mort n'y est pour rien, si j'ose dire. La mort, ça reste toujours un truc quand même assez abstrait. Ça passionne les artistes, mais c'est pas ça la vie réelle. La vie réelle, c'est je suis libre, qu'est-ce que je fais?
Joséphine Taillepamard.
Oui, sur la question de la mort, moi, ce que je trouve intéressant en y repensant hier pour l'émission, c'est qu'en fait, tout est, enfin, que je, un peu une critique, c'est qu'il n'y a pas de mort inutile, il n'y a pas de mort accident ou de mort comme le deuil auquel on est confronté en tant qu'être humain réel, c'est que des morts utiles, des morts de combat, des morts sacrifices. Donc certes, on est confronté à l'idée de la mort, mais je ne sais pas si la question du deuil est vraiment abordée de la manière... Enfin, de manière à vraiment nous aider en tant que lecteur.
Bruno Humbeck.
C'est plus la question de la blessure que de la question de la mort. Ouais. L'important chez Harry Potter de garder sa cicatrice.
C'est aussi... Expliquer d'où vient cette cicatrice.
Elle vient effectivement du traumatisme qu'il reçoit, puisqu'on veut qu'il meure, mais on lui laisse une cicatrice.
C'est Voldemort.
C'est Voldemort qui lui donne une cicatrice, donc elle vient de là. Et qu'est-ce que je vais faire de ma cicatrice? Comment je vais vivre avec? C'est ça la résilience. C'est pas comment je vais vivre comme si rien ne s'était passé, mais en tenant compte de quelque chose qui s'est passé, continuer à vivre malgré cela ou en dépit de cela.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit Isabelle Smadja, qui a consacré un ouvrage à Harry Potter? Harry Potter, c'est un conte de fées modernes où la mort est vaincue par l'amour. François Combat. Je vous sens dubitatif, là, déjà, tout de suite.
Oui, bah oui, c'est toujours un peu le risque de comment voulez-vous enfermer 4000 pages dans une formule de 4 mots, quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais je dis pas que l'idée est fausse, mais elle est insuffisante.
Bruno Humbeck. Tout à fait, moi, pas du tout d'accord. La mort est vaincue par la vie. C'est tout à fait différent parce qu'Harry Potter continue à vivre. S'il mourait, là, on pourrait considérer effectivement que la mort a gagné, mais là, Harry Potter, d'ailleurs, on ne peut pas imaginer, et je ne vais pas suggérer ça devant une fan d'Harry Potter, qu'il meure à la fin. C'est absolument inconcevable.
Mathilde Cesbron, j'aimerais qu'on revienne sur la figure messianique d'Harry Potter. C'est un aspect qui plaît à certains lecteurs. Dans Les Reliques de la Mort, par exemple, Harry Potter est celui qui choisit de donner sa vie pour sauver les autres, secourir les autres en dépit des dangers. Voilà une valeur qui ne s'altérera jamais et qui séduira encore et toujours de nombreux lecteurs.
Oui, c'est vrai que on peut, dans certaines mesures, le comparer au Christ dans sa volonté de toujours aider son prochain, ses actes courageux, le fait de se sacrifier à la fin et puis d'être frappé par une prophétie aussi. Mmh. C'était le cas voilà.
Oui, alors c'est pas le sacrifice inutile, c'est pas non plus. Ce qui le montre bien, c'est la partie d'échec. Quand on sacrifie une pièce, effectivement, c'est pour gagner la partie. Et la partie d'échec d'Harry Potter est pour moi le moment clé de toute l'œuvre.
Bonjour Noé.
Bonjour.
Bienvenue. Est-ce que je peux me permettre de te tutoyer? Tu as 9 ans. J'ai le droit ou pas?
Oui.
Bon, super. Alors, tu as commencé à lire Harry Potter à quel âge?
6 ans.
Bon, et alors, est-ce que tu les as tous lus?
Tous.
Bon, alors pourquoi est-ce que tu adores carrément, c'est ce que tu nous as dit hors antenne, Harry Potter?
Bah, parce qu'il y a de la science-fiction, c'est... il y a du suspense et puis ça parle de magie. Mmh. Et c'est que Harry Potter, ben, il vit des aventures sans même le vouloir, et donc ça, et ben, j'aime bien.
Pourquoi ça te parle? Ça t'aide à grandir d'une certaine façon? Est-ce que tu sens que voilà, il te transforme un peu dans ta manière de voir le monde, les autres, etc. Ça te parle de ce point de vue-là, Noé?
Non.
Mais voilà, c'est très bien. Pas tellement. Quel est le personnage que tu préfères et celui qui te parle le plus?
Celui qui me parle le plus, c'est Ron.
Ah. J'ai pas entendu, pardon, excuse-moi.
Ron.
C'est Ron?
Oui.
Ron. Pourquoi Ron?
Parce qu'il est drôle et puis c'est surtout ses deux frères aussi. Ils forment une belle famille et puis donc ben, ils sont drôles, ils me font beaucoup rire.
Alors, est-ce que. Ben, je crois savoir que tu as envie d'aller à Londres.
Oui.
Pourquoi?
Pour aller voir le studio Harry Potter.
D'accord. Bruno Humbeck, oui, question alors, peut-être à Noé.
Il y a une superbe phrase, il vit ses aventures sans même les vouloir. Donc ça veut dire qu'il subit d'une certaine manière, mais il ne se contente pas de subir. C'est ça qui est intéressant. Et donc je pense que ce que Noé est en train... Il ne se rend pas compte qu'il grandit, je pense. Mais il grandit effectivement, parce que son analyse d'Harry Potter, elle est pour moi parfaite. Hein.
Merci beaucoup Noé d'avoir témoigné dans Grand Bien Vous Fasse. François Combat, Harry Potter apprend la tolérance à travers la métaphore de la discrimination raciale. J.K. Rowling met fortement en garde contre le racisme inconscient notamment.
Oui, elle met en garde là-dessus. Je crois qu'elle apprend la tolérance, je crois qu'elle aussi, elle apprend l'intransigeance avec la malhonnêteté. Et au fond, c'est ça quand même. C'est-à-dire qu'il faut être intransigeant, y compris avec soi-même. C'est-à-dire qu'ils ont tous un petit chemin à faire. Ron est un peu désinvolte à l'égard des elfes. Il faut qu'il progresse.
Désinvolte plutôt méprisant même.
Oh, méprisant Ron, non, il est trop faible. Vous voyez, le mépris, il n'est pas spontané. Le mépris suppose quand même qu'on a une espèce de supériorité acquise. Non, et puis il a des espèces de colère héritée contre les géants, par exemple.
Joséphine Taipamar, sur l'apprentissage de la tolérance.
Ah oui, pour moi, c'est vraiment un grand trait de Harry Potter. Et ce qui est marrant, c'est que ça se retrouve dans le monde magique et aussi dans le monde moldu. Dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, on entend la tante Marge dire « c'est du mauvais sang, ça vient du sang ». Et c'est exactement ce qui est dit dans le monde des sorciers par rapport au sang de Bourbe, donc c'est-à-dire les sorciers nés moldus, donc nés normaux, on va dire, de parents normaux. Et c'est pour moi, c'est très présent dans la hiérarchie des créatures magiques, dans le traitement des centaures, des elfes, enfin autour de tout ça. Et c'est hyper intéressant. Et j'avais vu une étude où, enfin, je ne pourrais pas vous les citer précisément, mais les jeunes qui auraient lu Harry Potter seraient en général plus tolérants, plus ouverts et plus humanistes.
Bruno Humbeck.
C'est l'apprentissage, non pas seulement de la tolérance, mais de la convivance. C'est un espace humain contraint, Poudlard. Ils sont obligés de rester ensemble et ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. C'est une belle leçon de convivence et cette recherche-là ne m'étonne pas du tout. Effectivement, on a une leçon de convivance essentielle.
En un mot, pourquoi lire Harry Potter pour ceux qui ne l'ont jamais lu ou n'ont jamais vu l'un des films? Allez, un mot, Bruno Humbeck.
Pour grandir, mais...
Justement. François Combat.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir, très bien vu. Joséphine.
Pour être, je sais pas, je peux pas être sans Harry Potter.
C'est tout un programme pour être. Mathilde Cesbron.
Bah moi j'aurais dit pour le plaisir aussi.
Pour être, pour le plaisir, pour grandir, lisez Harry Potter. Merci beaucoup François Combat, Bruno Humbeck. Je rappelle votre ouvrage de Blanche-Neige à Harry Potter, c'est aux éditions Mols. Merci beaucoup Joséphine Taipamar et Mathilde Cesbron. Le hors-série Le Point Pop consacré à Harry Potter est actuellement en kiosque. Tout de suite, notre Hermione Granger, Julia Foy, pas son genre.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Un garçon, je suis une fille.
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon?
T'as menti?
Bah oui, mais maman, j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et tu réclames le droit de vivre, voilà.
Bonjour Julia Foyce.
Bonjour Ali, bonjour tout le monde.
Alors tous les mercredis, vous nous promenez du masculin au féminin et sur la route escarpée du genre, vous butez contre toutes les entraves à l'égalité entre les sexes, vous pestez contre les stéréotypes qui toujours nous enferment. Mais ce matin, vous êtes bien.
Mieux. Je suis jardin zen. Au milieu de moi coule une rivière et elle me porte et elle m'entraîne. Je ferme les yeux, tout va bien, les choses bougent, les choses avancent. Je vois le verre à moitié plein, l'essentiel c'est de le marteler, c'est ce qu'on appelle la méthode Coué. J'ai fait ça toute la semaine. Vous avez vu cette pub Mauboussin, Ali, dans les couloirs du métro?
Non, non, non.
Eh ben, elle est bien. Vraiment bien. Déjà, la fille, elle est jolie. Au bras, elle a un joli sac à main aussi. Au ciel, ses yeux. Elle réfléchit. On l'a donc dotée d'un cerveau quelques centimètres au-dessus des seins. Bravo. Visiblement, ça cogite. Hein. Je me réveille. Paraître, séduire. C'est le texte qui accompagne la photo. Je prends ma douche. Je me maquille. Paraître, séduire. Je marche dans la ville. Paraître, séduire. Je suis au travail. Paraître, séduire. Donc, à un moment donné, il y a quand même eu des hommes et peut-être même un peu de femmes qui se sont réunis et se sont dit « Tiens, pour parler à la femme d'aujourd'hui, pour se mettre dans sa peau, se glisser dans sa tête et rendre compte de toutes ces questions cruciales auxquelles elle se confronte chaque jour, voire 10 fois par jour, on va écrire un poème avec des plaints, avec des déliés. Il y a du Shakespeare, il y a du Corneille, là-dedans, ça met de la poésie dans sa vie, elle va nous dire merci. » Alors oui, merci, même si à titre personnel, je trouve que ça manque un chouille de réalisme, hein, au risque de tomber dans le trivial. J'aurais bien vu un petit « j'emmène mon fils à la crèche », paraître, séduire, je remplis le frigidaire, paraître, séduire, je descends les poubelles, paraître, séduire. J'ai failli la taguer, l'affiche. Mais zen, rappelle-toi, Julia, qu'il y a encore 30 ans, on mettait des femmes sans poème et sans cerveau, cul nus sur des jantes chromées pour vendre des voitures et... Ah non, pardon, on le fait encore.
Mais tout va bien, vous voyez le verre à moitié plein, Julia.
Ah oui, tout va très bien. Quand 53% des filles étudiantes dans les filières informatiques disent avoir subi des gestes et ou des remarques sexistes, tout va bien. Une main aux fesses, tout va bien. Un sifflement et même parfois un peu de harcèlement. Une sur deux chez nos amis les geeks. Avant elles, il y a eu les internes en médecine. Après elles, cette semaine, les femmes qui travaillent dans le cinéma d'animation, toutes dénoncent les mêmes comportements, les mêmes faits, les mêmes peurs et les mêmes ventres qui se nouent. Mais tout va bien. Ce qui compte, c'est que la... Comment on dit déjà ? Ah oui, que la parole se libère, que dans 40% des cas au travail, cette parole se retourne contre celle qui l'a prononcée. Peu importe, chaque chose en son temps, Julia. Balance ton porc, fera son effet, c'est promis, c'est juré. Tu ne peux pas demander à un pays qui a accordé aux femmes la pilule et le droit de vote bien après la plupart de ses voisins européens d'éradiquer le sexisme en quelques toutes petites semaines. Ah oui, pardon, c'est vrai, on a le droit de vote. Youpi. Je suis joie, je suis gratitude, je suis miséricorde quand Tex nous présente ses excuses.
Tex, l'animateur des amours sur France 2 ?
Exactement, il était invité sur C8 vendredi dans l'émission de Julien Courbet et il a fait cette blague. Que dit-on à une femme qui a deux yeux au beurre noir ? Ben rien, tu lui as déjà dit deux fois. Ben quoi, c'est de l'humour, Ali. Oui, sauf que visiblement, Marlène Schiappa n'en a pas, comme toutes les féministes. Hein, c'est bizarre, comme on n'est pas détendu du bulbe dès qu'on fait une blague. Bon, par exemple, sur le viol ou sur les violences conjugales, sur les blondes et sur les blondes à coca. Bref, Marlène Schiappa a fait un signalement au CSA. Tex s'est fendu d'un tweet. Mes excuses les plus sincères à toutes les personnes que ma blague a pu blesser. Je m'oppose fermement à toute forme de violence faite aux femmes. Génial. C'est juste qu'entre la blague et le signalement au CSA, il s'est passé 3 jours et que donc une femme est morte encore sous les coups de son conjoint. C'est la cadence hein, en France, dans ce pays qui avance si bien. Mais je suis joie, je suis bien, les choses bougent, pour nos gamins tout du moins. 45 ans après sa naissance, la série de livres jeunesse Monsieur et Madame vient de faire un pas de géant avec ce Madame Invention, dont la publication est prévue pour le 8 mars 2018. Une créature donc, elle aussi dotée d'un cerveau, comme la jolie dame au sac à main. Et avec son cerveau, elle invente des trucs de malade. Un chapeau qui papote, par exemple, pour Madame Bavarde. Un sac à dos qui attaque les frigos pour Madame Dodu. Et donc, on est toujours un peu pipelette, un peu inconséquente. Ouf, j'ai vraiment cru que les choses avançaient.
Et Julia Foyce, pas son genre, tous les mercredis et samedis dans Babel sur scène.
Alors samedi, on part en Côte d'Ivoire avec la dessinatrice Marguerite Aboué qui nous avait régalé déjà avec Aya de Yubougon et qui nous entraîne cette fois dans les bas-fonds d'Abidjan.
À samedi 20h, demain je vous propose une petite histoire de la robe avec Georges Vigarello. Comment la robe a peu à peu libéré le mouvement des femmes. 01 45 24 7000, demain dès 9h.